Vraiment, je suis saisie de tout ce que j'entends.
Je peux pas arriver à 65 ans et avoir l'impression que j'ai fait que des choses que j'aimais pas tellement.
En 2021, ça va être terminé. Après, je ferai plus de scène.
T'sais, j'en écris, j'en raconte maintenant des histoires. Ça m'intéresse.
Ça me fait vraiment mal parce que je me suis vraiment donnée là, pour ces shows-là.
Peut-être que c'est une façon de me libérer.
Sans fil.
Mon invité, Mitch Garber, il est président du conseil d'administration du Cirque du Soleil. Il est président du conseil d'administration d'Investir au Canada, qui est une agence, en fait, qui amène des capitaux ici. Il fait plein de choses. On le connaît beaucoup depuis les dernières années à cause de son rôle dans l'émission Les Dragons. Mais il fait tellement de choses autres. C'est un homme d'affaires. C'est surtout aussi un philanthrope. C'est sûr que quand on a les moyens, Mitch, c'est facile de donner de l'argent. C'est plus facile.
J'aimerais que ça soit plus facile pour plus de gens. Donc, je passe beaucoup de temps à parler aux gens qui sont fortunés,
ouais.
qui donnent moins qu'ils devraient donner, d'après moi. Et je ouais. dis « devraient » parce que je pense qu'il y a un devoir.
Est-ce qu'on est généreux,
pour certaines personnes, c'est pas facile. Donc, je vois des personnes riches qui donnent pas de pourboire dans un restaurant pour une serveuse qui fait... le minimum. Donc, c'est pas pour certaines personnes, c'est pas naturel.
Ouais, c'est ça. C'est drôle parce que je relisais, je suis passée à travers ta biographie et c'est vrai que tu es devenue une personnalité publique à partir du moment où tu as fait de la télévision, c'est un peu normal. Mais il y avait quelqu'un qui te posait la question il y a plusieurs années, dans les années où on a vendu les expos, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que tu veux ramener les expos à Montréal. On t'avait demandé si tu avais pu racheter les expos dans les années 90, 99.
Ouais.
Tu disais, j'avais pas d'argent.
Ouais.
On n'imagine pas Mitch Garber, pas d'argent.
Mais moitié de ma vie, pas d'argent. Et donc, quand j'étais jeune, on n'avait pas d'argent. En fait, j'étais très fortuné d'aller à une école privée, mais les frais de scolarité étaient payés par autrui, donc par des dons.
Ah
oui? Oui, dans la communauté juive, il y avait une tendance, une police que si tu étais juif et tu voulais aller à l'école privée juif, que si tu n'avais pas les moyens, ils trouvaient les moyens. Et donc, moi, je n'avais pas les moyens la plupart des années, moi puis ma sœur. Et donc, notre frais de scolarité était payé par des autres.
Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents? Est-ce que tu viens d'une famille qui était moyenne ou plutôt?
Ma mère était enseignante à l'école primaire.
Ouais.
Mon père était entrepreneur. C'est une histoire un peu triste. Bon, mon père était millionnaire dans ses vingtaines. Il faisait faillite dans ses trentaines. Puis, il s'enlevait la vie dans ses quarantaines. Donc, j'ai eu une belle vie familiale, ma mère, ma sœur, mon père, mais c'est pas ce que le monde pense quand il me rencontre. Il pense que j'étais peut-être né riche ou j'étais pas né éduqué, j'étais pas né riche, j'étais né comme tout le monde.
Mais ton père s'est enlevé la vie.
Oui, oui. Wow. Il avait 46 ans.
Et toi, t'avais quel âge à ce moment-là?
23.
Et c'est un entrepreneur, un homme d'affaires.
Qui oui,
il s'est enlevé la vie parce que ses affaires ne marchaient plus.
On dirait que oui, mais on sait que...
Il y a plein d'autres choses dans le suicide.
Oui, on sait qu'aujourd'hui... Ouais. Aujourd'hui, je passe beaucoup de temps avec le Douglas et autres pour... Bell fait un super job à mettre sur le plan public.
Cause pour la cause.
Oui, ouais, exactement. Donc, toute l'histoire de maladie mentale... C'est quelque chose qu'on doit en parler aujourd'hui. Donc, on ne peut pas juste dire que, oui, mon père a perdu beaucoup d'argent, donc il s'est enlevé la vie. Beaucoup de gens sont pauvres. Beaucoup de gens perdent beaucoup d'argent. Ils ne s'enlèvent pas la vie.
C'est
donc,
sûr.
Il doit avoir quelque chose d'autre.
Qui tient de la maladie mentale.
Exactement.
Ou qui tient, en tout cas, d'une perturbation, c'est sûr.
Ça, ouais.
Mais donc, à 23 ans, qu'est-ce que tu voulais faire à 23 ans?
Honnêtement, j'aimerais avoir une meilleure réponse, mais je voulais faire de l'argent. Je ne voulais pas... à vivre en insécurité financière. Mmh. J'ai vu ma mère avec des insécurités financières à cause du roller coaster de mon père. Et moi, je voulais pas subir ou je voulais pas une vie de insécurité financière. Et mes parents, ils étaient très sérieux sur l'éducation. Donc, mon père, il a lâché l'école en secondaire 2. Ma mère était enseignante à l'école primaire, mais elle n'est pas allée à l'université. Donc, il voulait vraiment que moi et ma sœur, on attend l'université. Donc, moi, j'ai reçu un bac à McGill. J'ai fait mon droit à Ottawa. Ma sœur a fait son bac en psychologie à McGill. Elle a fait son MBA à McGill également.
Mm-hmm.
Donc, là, on a vraiment réussi, moi et ma sœur, à atteindre une éducation de haut niveau.
Mais tu as fait d'abord un bac en relations industrielles, je pense, c'est ça? Exact. Ensuite, tu allais faire ton barreau, ton droit à Ottawa.
Oui.
Mais tu sais, c'est pas parce qu'on fait ça qu'on devient riche, forcément. Ce désir de faire de l'argent, c'est ça qui t'a amené à... T'as quand même, on voit qu'il y a un flair des affaires.
Mais entre faire de l'argent et riche, voilà. Il y a un écart. Quand je dis faire de l'argent...
Il y a un écart de combien de millions?
Quelques-uns, mais j'ai voulu faire assez d'argent pour acheter une maison, d'argent pour acheter une voiture, pour prendre une vacance ou deux par année. Donc, c'est pas des rêves de devenir milliardaire. C'est des rêves de pas vivre en insécurité, de payer l'hypothèque, insécurité de payer la voiture.
Mais aujourd'hui, t'es milliardaire.
Pas milliardaire, mais...
Multimillionnaire.
J'ai plus d'argent que j'ai besoin et donc... J'essaie d'avoir une conscience sociale. J'essaie de donner. Et je pense que je ne donne pas à ma capacité. Donc, je me mets au défi tout le temps de donner plus de temps, plus d'argent. Même nous qui sommes fortunés et généreux, on est un peu hypocrites aussi parce qu'il y a des milliers de personnes qui vont mourir aujourd'hui de faim. Il y a des pauvres ici à Montréal. Plus que 25 % des Montréalais vivent en dessous du
seuil de pauvreté.
Oui, exactement. Donc, est-ce que tout le monde font leur plus? Et donc, je suis le premier à lever la main pour dire, je ne fais pas mon plus. Donc, je veux toujours faire plus. Je peux donner plus. Et donc, j'essaie d'encourager les gens de donner quelque chose. Donc,
quand tu parles comme ça, parce que tu es à peu près un des seuls riches au Québec à parler comme ça. C'est rare qu'on entend ce discours-là de la part de quelqu'un qui a vraiment les moyens. Et puis, on ne parle pas de petits moyens dans ton cas. Là. Est-ce que tu en parles aux autres? Est-ce que tu leur dis, les autres frikis là, qui t'entourent, est-ce que tu leur dis, là, il faut donner. Là, on ne donne pas assez. On a une responsabilité sociale à faire en sorte qu'il y ait moins. Moi, je fais beaucoup depuis des années. Puis d'ailleurs, demain, c'est l'opération sac à dos pour la rentrée scolaire. Et puis, tu as déjà... Chaque année, je t'appelle, d'ailleurs. Ouais. Je vais te relancer. Mais... C'est difficile d'aller chercher 20 $ dans la poche de quelqu'un qui soit... Et même les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est difficile aussi.
Oui, écoute...
Est-ce que tu leur tires les oreilles?
Hein? Oui, mais j'ai utilisé mon plateforme publique pour parler. Pas pour chicaner, pas pour être condescendant.
Ouais.
Donc, quand j'ai présidé la campagne Centraide, j'ai visité beaucoup, beaucoup d'usines, des grosses compagnies Pratt Whitney, Bombardier, Deloitte et tout. Et donc, j'ai parlé aux employés, j'ai parlé d'une chose, taux de participation.
Mm-hmm.
Donc, avoir pas honte de donner 1 $ ou 5 $ ou 20 $. Donc, quand je parle aux pauvres et aux riches, c'est presque le même dialogue, c'est la participation.
C'est le montant qui change.
Ouais. Donc, quelqu'un qui est riche qui donne 20 $, pour moi, c'est pas acceptable, mais... C'est pas par chicaner cette personne-là, c'est par éduquer cette personne-là, c'est par parler à cette personne-là, c'est pour leur expliquer comment ils vont mieux sentir en conduire leur Porsche si on donnait un peu plus à ceux qui peuvent pas manger. Donc, c'est de justifier ta bonne chance et ta capacité de promener en Porsche ou d'avoir deux maisons ou de faire 3 semaines de vacances en République dominicaine. Bon, et tu es capable de donner plus et de pas sacrifier le Porsche non plus. Donc, donne plus. Donc, c'est ce type de dialogue que j'entreprends souvent.
Tu roules en quoi? C'est quoi tes véhicules?
Ça, j'ai honte. Je roule en Ferrari, je roule
en Ferrari? En Audi, ouais. C'est vrai?
Oui.
Rouge?
Non, bleu. Ah gris.
Gris? C'est quoi, t'en as deux, peut-être t'es mêlé?
Non, c'est... gris. Non, mais c'est important que j'en parle parce que la richesse de notre société est distribuée très inéquitablement. Sauf que on veut vivre dans un système capitaliste. Nous, au Canada et au Québec, on veut aussi vivre dans une société avec des programmes socialistes ou sociaux, comme la santé et l'éducation. Et donc, oui, c'est inéquitable, mais je n'ai pas volé mon argent.
C'est sûr.
J'ai payé tous mes impôts. Ouais. Oui, je vis une vie de luxe, mais en même temps, je reconnais ma bonne chance et je veux...
Et tu t'impliques.
Je veux plus donner, de temps. C'est sûr que quelqu'un peut venir me voir et dire, Mitch, tu peux facilement te promener en Kia et prendre l'argent de Ferrari puis le donner au moins fortuné. Et je n'ai pas d'argument contre, c'est vrai.
Mais toi, as-tu du fun à conduire ta Ferrari?
Je peux avoir du fun, faire beaucoup de choses. Ouais. Je veux juste dire qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de bonne réponse. Comment redistribuer la richesse en encourageant l'entrepreneuriat et le capitalisme, en maintenant nos systèmes et nos programmes sociaux, avoir un système de santé, un système d'éducation à haut niveau? Je ne sais pas. Il n'y a pas de réponse.
Comment le faire?
Ouais. Comment avoir un système parfaitement juste?
Ouais.
Donc, on s'en parle, c'est tout.
Ouais. En même temps, ça ne change pas. Les pauvres sont de plus en plus pauvres et les riches sont de plus en plus riches. Ça, c'est sur la base de la planète, mais c'est vrai aussi au Québec.
Oui, mais là, là aussi, j'encourage l'éducation parce que notre taux de décrochage scolaire est très élevé au Québec. C'est le plus élevé dans toutes les provinces du Canada.
Pourquoi?
Les provinces majeures. Écoute, il y a beaucoup, beaucoup de raisons. La pauvreté en est un. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons. On doit valoriser l'éducation. Je pense qu'aussi, on devrait reconnaître la bonne chance qu'on a ici au Québec que l'éducation est gratuite ou presque gratuite. Mm. Et même jusqu'à l'université. Aller à McGill, l'Université de Montréal ou l'Université de Québec à Trois-Rivières, c'est presque gratuit. Quand je dis ça, c'est 3 000 par année. Tu peux travailler à McDonald's et payer tes frais de scolarité. C'est pas comme ça dans tous les pays au monde. En fait, on est parmi les plus chanceux. Mm. Donc, encourageant l'éducation pour moi et de travailler sur le taux de décrochage, c'est quelque chose qui me tient au cœur.
Oui, tout à fait. Entre autres, puis tu es très impliqué là-dedans, entre autres avec ta conjointe avocate. On va s'arrêter ici.
Okay.
On revient tout de suite après la pause. Mitch Garber, mon invité, entrevue sans filtre. À tout de suite, tout le monde. On s'est dit une chose que vous ne saviez pas de Mitch Garber, c'est qu'il est un fan de la musique des années 70, hein, Mitch?
J'écoute tout le temps.
Bob Dylan. Cat Stevens,
Fleetwood Mac, Carly Simon, Carole King, Doobie Brothers.
Méchante bonne toune.
Ah ouais, j'adore. Donc, j'écoute souvent.
On parlait d'opportunités d'affaires pendant la pause et je te disais, il y a quand même chez toi un flair évident pour les affaires qui fait qu'aujourd'hui, tu es dans une position où tu peux redonner, où tu t'impliques à la société. Qu'est-ce qui fait qu'on peut réussir dans la vie? C'est une question très large, là, il y a plein de fois. Mais à partir du moment, c'est l'opportunité, c'est la chance, c'est le contexte. Tu me disais, il y a quoi, plus de la moitié de chance dans ton profil, finalement. Là.
Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de chance. C'est pas comme au hockey ou au sport. Il n'y en a pas de Gretzky pas trouvé. OK? Il n'y en a pas. Donc, tous les Gretzky sont trouvés.
Ils sont sur la glace.
Ouais, ils sont sur la glace, ils sont trouvés, ils sont repêchés, ils jouent dans la Ligue nationale. Mais il y a beaucoup, beaucoup de Mitch Garber ou Isabelle Maréchal qui n'ont pas, eux, les mêmes portes ouvertes ou les mêmes chances, qui auraient pu réussir comme toi et moi. Donc, tu sais, il y en a beaucoup. Donc, moi, j'ai eu des belles rencontres, des gens qui voulaient m'aider, des gens qui m'ont ouvert la porte. Et c'est sûr qu'il faut être prêt à défoncer la porte.
Mm-hmm.
Il faut surtravailler les autres. Il faut être passionné. Moi, je suis passionné par les affaires. Moi, je suis passionné par les acquisitions des compagnies. Passionné par les chiffres affaires. Et donc, pour moi, la chance, les portes ouvertes, la passion et l'éthique de travail, tout ça ensemble a fait en sorte que je me trouve où je me trouve aujourd'hui. Mais il y en a d'autres comme moi qui n'ont pas eu les mêmes chances, puis je suis convaincu que je suis juste comme un des plus chanceux.
Mais d'après toi, quel est l'élément essentiel pour réussir en affaires? Parce qu'il y a des gens qui ont des bonnes idées, puis qui n'y arrivent jamais.
Oui. Donc,
est-ce qu'il faut mieux maîtriser la gestion? Est-ce qu'il faut mieux avoir des contacts puis un carnet d'adresses avec des gros noms qui ont de l'argent? C'est quoi qu'il faut? Faut-il avoir un bon banquier? Ouais, Faut savoir plus compter qu'avoir une bonne idée? C'est quoi qui fait qu'on réussit?
Il n'y a pas de formulaire. Il n'y a pas de formule. Vraiment, il n'y a pas de formule. C'est que si vous avez une bonne idée, ça, c'est l'entrepreneuriat.
Ouais.
Si vous êtes une bonne travailleur, vous pouvez travailler dans une compagnie, avoir des promotions, avoir des actions dans la compagnie, très, très bien réussir. Donc, juste regarder les Facebook et les Apple puis dire, OK, moi, je vais être le prochain milliardaire parce que je vais avoir une bonne idée. Ça, c'est très, très, très difficile. Pour moi, le secret, c'est non seulement l'éthique de travail, mais s'entourer par des très, très bonnes personnes. Et ça, c'est l'erreur de plusieurs entrepreneurs et travailleurs. Ils veulent tout faire tout seuls ou ils sont intimidés d'être entourés par des meilleurs. Et donc, ils s'entourent par des plus faibles pour qu'eux, ils se sentent meilleurs ou plus forts. Et ça, c'est le mort de plusieurs entrepreneurs et plusieurs hommes et femmes d'affaires. Donc, la confiance de t'entourer par d'autres qui sont forts, plus forts ou aussi forts que toi,
j'imagine
c'est
que
important.
Ex-Dragon, il y a sans doute des gens qui te proposent des bonnes idées régulièrement. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu investirais dans une entreprise?
Bon, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. J'ai fait le Dragon pour des raisons un peu personnelles. J'ai voulu faire partie de la communauté francophone, que je ne faisais pas partie. J'ai voulu améliorer mon français. Je savais que je connaissais le milieu d'affaires aussi bien ou mieux que les autres dragons. Et je savais que je pouvais donner du conseil et ou investir pour des petits entrepreneurs, mais plutôt pour les auditeurs qui écoutent, les jeunes qui écoutent, qui veulent apprendre le monde d'affaires. Mais je ne suis pas vraiment un investisseur de start-up, c'est-à-dire des idées où il n'y a pas de revenus ou pas de profit. Ce n'est pas mon expertise. Mm-hmm. J'ai toujours fait partie d'une compagnie plutôt rentable où j'ai fait partie de la croissance de la compagnie par acquérir d'autres compagnies.
C'est ça, par acquisition.
Oui, par acquisition ou par produire d'autres produits ou quoi. Donc ça c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment dit. C'est pourquoi j'ai fait les dragons. Parce que le monde pense, oh, c'est un investisseur dans les startups, mais
non,
pas vraiment.
Ouais.
Donc, mais pour répondre à ta question, oui, beaucoup de gens m'approchent sur la rue souvent pour me pitcher.
Et qu'est-ce que tu leur dis?
La vérité, je donne une couple de minutes la plupart du temps. Si j'ai le temps, je donne une couple de minutes. Je donne la vérité. Je dis, je pense que ce n'est pas la meilleure idée ou ça, c'est une bonne idée si tu fais ci ou ça. Je pense que tu devrais peut-être trouver une partenaire.
Est-ce que les gens te paraissent préparés?
Les gens au Dragon...
dans la rue, là. Non, le monde ordinaire qui t'approche.
Non,
là,
parce qu'ils me rencontrent par hasard. Donc, ils sont pas prêts, mais ils s'en foutent. Donc, non, c'est pas... Moi, j'aime ça. Que les gens veulent me parler d'affaires.
Parce qu'au Dragon, puis de plus en plus, ils sont préparés, là. Ils savent qu'ils sont conscients qu'ils ont 5 minutes, 7-10 minutes de pitch.
Tu veux pas être...
ridiculisé à
télé. Oui, tu veux pas... Ouais. J'ai jamais ridiculisé personne au Dragon, mais... tu peux te faire ridiculiser.
Ouais. Est-ce que tu trouves qu'au Québec, on a quand même fait beaucoup de chemin là, entre on est né pour un petit pain et le Québec King en des années 80-90 et aujourd'hui où il y a quand même plus de gens, de jeunes et de moins jeunes qui disent ben, « j'aimerais ça avoir mon projet d'affaires ».
Ouais. Je pense qu'on est des victimes de notre histoire. Et on aime répéter notre histoire, même si aujourd'hui c'est moins vrai. C'est-à-dire, on n'aime pas le succès au Québec, on n'aime pas parler d'argent. C'est l'ancienne religion qui dictait qu'on parlait pas d'argent. Ça, c'est vrai. Mais en 2019, c'est moins vrai. Donc, on devrait commencer à plus parler d'Alain Bouchard et Lino Saputo et les Moulson et les Bronfman.
Mais eux aussi devraient parler.
Oui, et eux aussi devraient parler. Mais ouais.
Alain Bouchard a écrit
un livre.
Ouais.
Et Charles Bronfman a écrit un livre.
Ouais.
Donc, oui, il devrait. Et je ne veux pas juste parler des milliardaires, mais comme, j'ai dit ça sur votre émission antérieurement, si on connaît toute l'histoire de P.K. Subban et de Carey Price, on devrait connaître l'histoire d'Alain Bouchard.
Ouais.
On devrait. Donc, même si lui parle de lui ou parle pas de lui, on devrait, parce que ça, c'est quelque chose. 50 milliards de chiffre d'affaires couche-tard partout dans le monde.
Ouais.
Pourquoi tous les jeunes connaissent pas l'histoire d'Alain Bouchard? Même si Alain Bouchard parle pas de lui-même. Carey Price parle pas de lui.
Mais moi, ça m'intéresse, Alain Bouchard, par exemple.
Moi aussi.
Hein? Moins Carey Price.
Moi, Alain Bouchard...
Toi, c'est ton héros, Alain Bouchard? Tu dirais c'est la personne qui t'impressionne le plus.
Il m'impressionne parmi les plus parce que... Écoute.
OK, Alain Bouchard, qui d'autre?
Mais Alain Bouchard, il grandit à Chicoutimi.
Ouais.
Sa mère était dans une institution pour une maladie mentale quand il était très jeune, pendant 5 ans. Son père a fait faillite. Et donc, lui, il habitait dans une roulotte avec ses frères et sœurs. Donc, si tu lis l'histoire d'Alain Bouchard et tu réalises aujourd'hui qu'est-ce qu'il a fait, et c'est un homme hyper gentil, hyper philanthropique. Donc, comment est-ce que je peux trouver quelqu'un que j'admire plus que Alain. Et c'est mon ami, donc je suis chanceux.
Ouais. Bon, ben tu diras à ton ami qu'il peut venir à l'émission quand il veut.
Est-ce qu'il dit non?
Hey, disons qu'il est bien occupé.
Ouais, je vais y parler.
Mitch Garber, c'est un plaisir.
Merci beaucoup
d'avoir été à l'émission. Merci. On se retrouve demain. Passez une très, très bonne journée à l'antenne. Je vous donne rendez-vous. Même heure, même poste. Bye tout le monde.